Josiane habite une vie trop petite. Quand elle se retourne, elle se cogne. La tête, les coudes, les tibias, la mémoire. Alors, elle ne bouge pas. Devant trois tartines à la gelée de coin, elle s'impatiente qu'Henri se réveille pour l'école. Compte tenu de ses facilités scolaires, l'instituteur entrevoit pour lui des études de droit ou de médecine. Josiane, elle, l'imagine cafetier. Elle le voit servir la clientèle, tournoyer sur lui-même, distribuer sa joyeuseté, offrir de temps à autre une tournée et, dans quelques années, reprendre le café du soleil. De ma chambre, située sur le même palier que celle d'Anita et que le grenier, j'entends tout. La lourde porte d'entrée qui claque, les pas qui résonnent dans le couloir au carrelage à carreaux noirs et blancs, le tintement des verres, la machine à café, les rires, et, l'emportant sur ce salvateur chahut, le jukebox qui, de disque en disque, invite les clients avinés à chanter, souvent faux, mais à chanter quand même, et à remplir le vide qui rampe au mur de la cage d'escalier et qui, à l'heure de la fermeture, renoue avec le fracas du silence. La cafétéria est au rez-de-chaussée. Parfois, au sous-sol, ça dépend des jours. On y accompagne Madame Dumas pour les repas. On la convie à différentes tables où elle a le plaisir de rencontrer à chaque fois de nouvelles personnes, peu bavardes mais cordiales. La confiture, beaucoup trop sucrée, ne vaut pas la sienne. Il faudra qu'elle leur en apporte à sa prochaine visite. Pour l'heure, elle se contente d'être polie et de manger ce qu'il y a dans son assiette. Des mouches lorgnent les trois tartines à la gelée de coin. Josiane a horreur des mouches. Leur présence la dégoûte et leur vrombissement l'envahit. Ça bourdonne dans sa tête, ça grésille, ça siffle, ça teinte. De la main, elle les balaye en les traitant de sales bestioles, sans mémoire ni dignité, qui reviennent sans cesse de là où on les a chassées. Puis elle les laisse à leur festin, fruités, et monte les escaliers. Elle toque à la porte d'Henri. « C'est l'heure, mon chéri, il faut te lever. » Pas de réponse. Elle enfonce délicatement la poignée, guigne dans l'entrebâillement de la porte. Oreiller au sol et drap en bataille, Henri n'est plus là, envolé. Paniquée, elle se précipite à l'extérieur et appelle « Henri, Henri !» Parfois, pendant la nuit, Madame Dumas crie. Elle essaye d'ouvrir la fenêtre, crie encore. Elle hurle aux abois. On ne comprend pas ce qu'elle dit. On ne comprend plus. Ses mots sont indistincts et ses phrases s'étouffent en sanglots devant cette maudite fenêtre, impossible à ouvrir. Emprisonnée dans une chambre inconnue, une minuscule chambre à l'air vicié et au lino brillant, elle s'accroche à son chapelet.
Chaque soir, papa m'enferme dans ma chambre. « Que tu passes une bonne nuit, ma jolie » murmure-t-il avant de m'embrasser sur le front et de ranger une mèche de mes longs cheveux blonds derrière l'oreille. J'aime cet instant suspendu où son geste chuchote les mots tus. Puis il se dirige vers la porte, l'actionne, quitte la pièce, tourne la clé à double tour, la retire de la serrure et la lâche dans la poche de son tablier avant de retourner en cuisine. Minette a miaulé et gratté à la porte du grenier toute la nuit. Au petit matin, quand papa vient m'ouvrir, je saute du lit et cours la libérer. Contrairement à d'habitude, où de son crâne ronronnant, elle recherche mes caresses, aujourd'hui, elle se faufile in extremis entre mes jambes et déguerpit dans la cage d'escalier. Du grenier émane une odeur de putréfaction. J'ai envie de vomir. J'allume la lumière. Un essaim de mouches grouille sur un amas de vers dévorant des corps de chatons. Leurs battements d'ailes me martèlent les tympans. Elles vrombissent, s'affolent, s'envolent, s'immiscent dans mon cerveau.
Josiane se hâte dans le jardin, guette aux alentours la présence d'Henri. Elle ne le voit nulle part et poursuit sa course jusqu'au portail, tenant à bout de bras les barreaux. Elle hurle.
« Laissez-moi rentrer chez moi! Vous êtes des monstres! Par pitié, laissez-moi rentrer à la maison !» Elle s'époumonne.
De son lit, à travers les barreaux, Madame Dumas remarque une photo posée sur la table de nuit. Un homme lui sourit. Un bel homme, élégant, vêtu d'une chemise blanche et d'un paletot vert sapin. Un homme qu'elle aimerait rencontrer.
La première fois que je le vois, c'est à l'église. Il est servant de messe. Agenouillé sur la banquette en bois dans la rangée de bancs des dames, j'enfouis mon visage entre mes mains jointes et je le dévisage en cachette. Abasourdi, le cœur en alerte. Lorsque ses yeux tombent dans les miens, je ferme les paupières. L'air de rien, j'allonge mes doigts.
Une dame que Josiane ne connaît pas lui détache les doigts du portail et la raccompagne à la cuisine. Elle l'assied sur son fauteuil et essuie les perles de sueur sur son front. Elle lui prend la main droite, la lui pose sur l'avant-bras gauche. « Vous sentez, Josiane ? Vous vous souvenez que vous pouvez sonner en cas de besoin ?» Josiane sent le bracelet de sa montre mais ne comprend pas en quoi ni comment elle pourrait appeler à l'aide avec une montre. Une montre avec un gros bouton rouge au centre, sur laquelle elle ne parvient même pas à lire l'heure. Par dépit, elle acquiesce. La dame lui sert une verveine. Elle débarrasse le couvert, lave la vaisselle et l'essuie, puis balaye le sol en contournant ses pieds usés. Ses pieds perdus, ses pieds d'enfant qui frottent le carrelage, qui musiquent. Ses pieds comme le balancier d'une horloge qui décompte le temps jusqu'à ce qu'elle s'abandonne au sommeil. La tasse pleine, la tisane froide.
Au café, penchée sur mon devoir d'algèbre, je prête l'oreille au cancan qui m'en apprennent davantage sur le servant de messe aux cheveux roux. Il s'appelle Louis. Avec sa mère, ils ont déménagé cet été dans la maison carrée. Ce sont les nouveaux étrangers du village. Autour d'eux, régulant l'équilibre précaire des clans ennemis, gravitent l'attention et fustigent la médisance. Une femme célibataire avec un gosse sans père ni repère, quelle vie de débauche, quelle honte! Louis, un prénom que j'écris dans mon journal intime et que je déplie dans ma bouche avant de m'endormir. Josiane se réveille et se redresse du fauteuil en sursaut avec l'envie présente de faire pipi. La nuit est tombée, elle a peur. Elle ne reconnaît pas les lieux. Sa main tâtonne le crépi des murs et trouve un interrupteur. Autour d'elle, trois portes. Trois portes qu'elle n'ose pas ouvrir sans savoir pourquoi. Elle se dirige de l'une à l'autre, s'active, s'agite, panique, trébuche, bouscule la table, les chaises. Soudain, la sommelière, Anita, qui sort de nulle part, qui lui barre le chemin, la force à s'asseoir. Elle la repousse, se débat, frappe des poings et la mord. La sommelière lâche prise. Au sol, une flaque d'urine et elle, égarée dans sa cuisine, qui la piétine.
Au petit matin, je descends à la salle de bain pour vider mon vase dans la cuvette des toilettes. J'y croise souvent Anita devant le lavabo. Elle se rince le corps avec une lavette et se coiffe les cheveux en chignon avant de remonter au deuxième pour enfiler par-dessus sa gaine une robe évasée et ceinturée à la taille qu'elle recouvre de son tablier de service. J'aime sa silhouette de femme, ses hanches, ses seins ronds et le grain de sa peau dans le creux de sa clavicule. J'aime sa façon de remballer les clients du tac au tac, avec aplomb et avec le sourire en plus. Elle ose tout leur dire, elle ose rire. Elle ose aussi les écouter comme si chacun valait la peine, y compris moi. Souvent, elle devine mes inquiétudes avant que je ne les formule. Elle interrompt alors sa toilette, se laisse glisser au sol et m'invite à m'asseoir à côté d'elle. « Dis-moi ce qui te tracasse, Joe. » Ce matin, il y a du sang qui marbre mon urine. J'ai peur. Je lui montre le vase et je pleure. « Tu as tes règles, ma belle. Ne t'inquiète pas, c'est normal. »« C'est même mieux que ça, c'est formidable. » Tu es devenue une femme, me rassure-t-elle en relevant mon menton de ses doigts peints. J'ai 13 ans, je suis une enfant femme. Et malgré l'explication d'Anita, j'ai peur de mourir, comme maman. J'ai peur de me vider de mon sang.
Attachée à un fauteuil, Madame Dumas porte une couche. Elle ne la sent pas. Ni ses sphincters, d'ailleurs. C'est souvent dans le hall d'entrée que le regard perdu, ses muscles vésicaux et anaux se relâchent. Les autres résidents grimacent, s'offusquent. Il la laisse seule dans l'alignement des chaises en cuir rouge face aux portes automatiques de l'entrée principale où les courants d'air décoiffent ses cheveux blancs. Sur les consignes de la dame, Josiane prend appui contre la plonge. La dame s'agenouille face à elle. Elle lui enlève ses chaussons. Sur ses cuisses déroule ses bas, sa culotte trempée et ôte sa robe tablier. Avec une lavette au parfum de savon de Marseille, lui lave le corps. « Anita, tu ne diras rien à papa, hein ?» Sur sa peau, des larmes d'eau. Des larmes de honte.
Avec les copains du village, chaque jour après l'école, nous allons nous baigner à la rivière. Papa n'en sait rien. Je ne lui ai pas demandé l'autorisation, car il ne me l'accorderait pas. Depuis la mort de maman, il a la hantise qu'il m'arrive quelque chose. Il a tout le temps peur pour moi. aujourd'hui, en me voyant traverser le corridor avec les cheveux mouillés, j'ai failli me faire démasquer. Alors qu'il s'apprêtait à gravir les escaliers pour me questionner, Anita l'a retenue par le bras et m'a couverte en prétendant m'avoir lavé la tête sur le perron. Elle est ensuite montée dans ma chambre et m'a suggéré avec ironie d'être plus discrète si je voulais profiter d'un brin de liberté. Vexée, j'ai marmonné dans ma barbe un piètre merci. Louis nous y accompagne. D'emblée, il est des nôtres. Il enfourche son vélo. Avec nous, évitant trous et taupinières, dévale à travers champs. En bas de la pente, nous sectionnons le fil de fer barbelé qui sertit la lisière du bois. Nous y couchons nos vélos, prenons nos jambes à notre cou avant que le paysan du coin n'actionne sa carabine. Nous courons, fonçons sans nous retourner. Chacun pour soi, mais tous ensemble. Ronces et arbrisseaux nous lacèrent les mollets. Nos cris de douleur, de peur, mais surtout de joie, zigzaguent entre les troncs et effraient les écureuils qui bondissent de branche en branche. Le bonheur de la transgression a le goût piquant de la liberté. Rien ne réfrène notre soif d'évasion. Parvenus à la clairière, nous ralentissons. Cachés dans les hautes herbes, nous nous frayons un passage jusqu'à notre petite plage située de l'autre côté de la forêt. Au pied d'un grand sapin, nous lançons nos sacs à dos, puis, sans plus attendre, ôtons nos vêtements pour sauter dans l'eau fraîche qui, par éclaboussure, perlait le ciel d'éclats de lumière. Nos cris et nos rires crécèlent, nous nous agitons, nous nous giclons. La bataille de bouchons éclate. Tous s'en donnent un cœur joie. À tour de rôle, nous buvons la tasse. Soudain, je sens la peau de Louis. Sa peau contre la mienne, entre deux bouchons. Par accident. Mais sa peau quand même. J'en ai les frissons. Tu as froid ? Me demande-t-il étonné. Oui, balbutiai-je en montant. Attends. Il regagne la berge, fouille dans son sac. Sa serviette voltige par-dessus son épaule. Il me tend les bras pour m'aider à garder l'équilibre sur les pierres gluantes. Il m'enroule dans son odeur. Son odeur. Mélangée à la fragrance des pins que je hume très fort. En fermant les yeux.
Nue dans la cuisine, Josiane grelotte. La dame essuie sa peau avec un linge rêche séché sur l'étendoir du jardin, lui enfile des sous-vêtements. En lui donnant la main comme à une petite fille, à une toute petite dont le visage se chiffonne à mesure que sa mère s'éloigne, elle l'accompagne dans sa chambre. Elle l'allonge dans son lit, la recouvre d'un duvet en plume d'oie, celui qu'elle aime. Celui qui lui tient chaud quand la température de sa chambre à coucher chute pour avoisiner les 15 degrés. Avec un courant d'air, approche une infirmière. Elle s'accroupit devant la patiente, lui réchauffe les mains. « Vous allez bien, Madame Dumas ?» Elle ne réagit pas. Mais quand elle se balance devant elle et chante « Colchique dans les prés, fleurisse, fleurisse », les yeux de la vieille dame cessent de flotter et accostent ceux de l'infirmière. Elle se balance avec elle et fredonne. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été.
À la lisière de la forêt, les autres récupèrent leur vélo pour rentrer chez eux. Louis et moi traînons un peu. Traînons le pas. À grande brassée, nous faisons valdinguer les feuilles mortes. Il pleut du rouge, du brun et du jaune devant un soleil couchant qui jalouse nos éclats de rire. Louis s'arrête à la hauteur du chêne, me tend la main. Je la saisis. Il m'attire contre lui, tout contre lui, m'enlace. Depuis maman, c'est la première fois que quelqu'un me prend dans ses bras.
L'infirmière l'amène en chambre. Elle avance le bassin de la patiente sur le placet du fauteuil roulant, pose ses pieds à terre, coince ses genoux entre les siens et bascule le haut de son corps contre elle. Elle lui saisit les bras qu'elle dépose l'un après l'autre par-dessus ses épaules. Madame Dumas y appuie sa tête. Happée par les battements du cœur de l'infirmière, rassurant comme ceux d'une mère, elle lui agrippe la nuque et la serre, fort, très fort. « Madame Dumas, je vous en prie, lâchez-moi, vous me faites mal, vous entendez ? Lâchez-moi !» Madame Dumas obéit. Elle se détache de sa mère en humant un parfum qui ne lui rappelle rien. L'infirmière fait pivoter son corps sur le lit, son corps famélique, soudain si lourd. Elle le tourne sur le flanc, le déshabille, avec des gants lui retire sa couche et lui lave l'arrière-train. À l'aide d'une cigogne, elle déplace la patiente jusqu'à la salle de bain, l'assied sur un siège en plastique. Elle lui tend le pommeau de douche. La patiente le met à la bouche et le lèche comme un cornet de glace. L'infirmière ouvre le robinet. Le clapotement de la rivière illumine Madame Dumas qui se meut, s'égaie. Elle se bouche le nez. De la berge, saute à pieds joints dans l'eau froide et éclabousse ses amis qui, d'une main joueuse, la bouchonnent à tout va. Ces brèves secondes sentent le sous-bois d'un après-midi lointain, oublié et dur tout un été, interrompu par l'infirmière qui invite la patiente à se mettre en action. Madame Dumas se souvient de l'utilité du pommeau. Yeux fermés, elle se rince le visage, la tête, le cou, la nuque, les seins, dans des mouvements circulaires, le ventre, encore le ventre, et encore le ventre, les jambes, les pieds, et puis de nouveau le visage, jusqu'à embuer le miroir de la salle de bain sur lequel, guidée par l'infirmière, elle trace son prénom.
C'est lundi. Le café du soleil est fermé. Il pleut. Le jardin potager attendra. maman m'accorde de son temps si précieux. En prévision de mon entrée à l'école primaire, elle m'apprend à écrire mon prénom. Sur l'ardoise du service, elle en trace le patron de chaque lettre que je recopie la lèvre retroussée. Elle me sourit. Et, entre deux quintes de tout, me chuchote au creux de l'oreille qu'elle est fière de moi.
Dans le miroir, Madame Dumas adresse un sourire à l'infirmière qui le lui offre en retour. Celle-ci lui caresse la joue, lui parle lentement, distinctement, avec des mots réconfortants, jusqu'à ce que Madame Dumas s'évapore encore. L'infirmière essuie ce corps décharné, tamponne sa peau dans ses moindres replis, lui enfile sa chemise de nuit et l'étend dans un lit trop haut perché. Tout autour, la vacuité. Elle a peur de tomber.
Henri n'est pas encore rentré. Lui est-il arrivé quelque chose sur le chemin de l'école? À mesure d'inquiétude, le sommeil déserte et l'agitation la gagne. Dans son lit, Josiane se tourne, se retourne, pédale. Son duvet en plume gicle. Contre le mur, elle se cogne le front, les coudes, les genoux et les poings. Elle allume sa lampe de chevet. Sur le dos de sa main, des écorchures. Elle se lève pour aller chercher du mercurochrome dans la pharmacie. À peine a-t-elle posé le pied au sol qu'elle oublie la raison de son initiative. Seule l'angoisse perdure. La traque. Josiane s'affole et essaye nuit après nuit de la semer en déambulant dans son appartement.
Maman s'émerveille devant mon application et ma persévérance. Tu seras une brillante élève, Jo. Me confie-t-elle avant une nouvelle quinte de toux qui interrompt son baiser. Sur son mouchoir à dentelle, qu'elle s'empresse de rouler dans la manche de sa robe. Il y a du sang. Je ne dis rien, je ne bouge pas. Elle ferme la porte du café et monte faire une sieste. Elle est si fatiguée. Par moments, elle peine à parler, à finir ses phrases. Elle qui a toujours mis tant de cœur et pris tant de soin à m'expliquer les choses. Je tremble.
Derrière les barreaux, un homme sur une photo. Un homme avec un paletot sombre et l'air sévère. Un homme qui la met mal à l'aise, qui la fixe et insiste, qui refuse de s'en aller et l'observe, qui la terrifie. Le corps de Madame Dumas se fige. Elle hurle, jette des coups de pied et de poing dans l'antre de l'enfer qui se referme sur elle. Une horde d'inconnus vêtue de blanc, débarque dans sa cellule, la plaque au matelas et lui ligote les poignets. Madame Dumas se débat et produit des sons
inaudible, plus proche des râles que des mots, plus proche de l'animal que de l'homme. Elle n'entend pas qu'on lui parle. Dans cet état, elle n'entend plus. À la surface de son squelette flotte un corps étranger, une sorte d'enveloppe qui palpite, frémit, s'embrase, brûle sa chair et la consume. Face à la horde d'inconnus qui lui injecte des substances dans les muscles, elle s'éteint dans un silence froid qui dégouline de sueur. On lui parle encore, on la rassure. Elle n'entend toujours rien, mais son corps lâche prise et s'endort d'une petite mort qui lui octroie l'espace d'une nuit, le réconfort du sommeil. Le fantôme prend tout à coup une apparence humaine. La fusillant du regard, elle lui ordonne de retourner se coucher. L'ombre de Josiane, qui ondule contre les buffets de la cuisine, la précède, s'élance vers la porte-fenêtre, l'ouvre, s'engouffre dans le noir de la nuit, où Josiane s'apprête à enjamber le balcon. Alors que ses pieds quittent le bac à fleurs, dont la terre est sèche et craquelée, le fantôme la retient par la taille, la tire, la plaque contre lui. C'était moins une. Elle résiste à la violence de cette étreinte forcée en boxant le ciel. Le fantôme resserre sa prise, cadenasse ses bras. Josiane s'épuise. Les yeux hagards, elle se rend à l'ennemi, comme s'il n'avait jamais existé. Puis elle tourne la tête vers lui. « Je peux te servir un thé, Anita ?»« C'est gentil, lui répond l'auxiliaire de vie, mais il est l'heure d'aller dormir. » Et je ne suis pas Anita, mais Christine. Vous vous souvenez ? Josiane ne répond pas. Allez, venez, madame, vous êtes fatiguée. Dormir vous fera du bien, lui souffle-t-elle en la raccompagnant dans sa chambre. Merci, Anita. Que ferais-je sans toi ? Il est 3h30. Josiane s'endort, épuisée. L'auxiliaire de vie regagne la chambre d'amis. Demain matin, elle fera un rapport au médecin pour lui signaler la crise de Madame Dumas, qui chaque jour davantage met sa vie en danger.
J'ai commencé l'école. Chaque jour, à l'heure du goûter, attablée au bar, je fais mes devoirs. Toute seule. Papa, qui me sert de l'eau d'aignée et des croquets, m'en félicite. Ensuite, je monte dans la chambre de maman afin de lui réciter mes leçons. Même si son visage est éteint, je sais qu'elle m'entend. Puis je repars sur la pointe des pieds pour ne pas la fatiguer davantage. Parfois, en quittant la pièce, je guigne dans l'entrebâillement de la porte. Malgré sa maigreur, sa peau translucide, cartographiée de veines bleues et ses cheveux en bataille, je la trouve très belle, même endormie, surtout endormie, parce qu'endormie, je suis persuadée qu'elle souffre moins, que dans son sommeil, elle a encore assez de souffle pour chanter. Ce soir, je m'en vais lui réciter le verbe « être » au présent. Mais quand je rentre dans sa chambre, elle n'est plus là. Le lit est défait, la tête d'oreiller tachée de sang séché. Le vase plein d'urine et la petite valise grenat appuyée contre la commode depuis plusieurs jours n'y
Je déteste la négation. Je déteste le verbe être. Je déteste le présent qui menace un futur sans ma maman. Je déteste demain. Je ne veux pas y penser. Plus jamais.
Le médecin invite les enfants de la patiente à prendre place. Alignés en rang d'oignon face à son bureau, Nicole, Jacques et Stéphanie jettent un œil à la multitude de diplômes blancs, crème, accrochés au mur. Sans grande impatience, ils attendent que le médecin finisse de lire le dossier médical de leur mère et qu'il se prononce. Les épisodes de désorientation de Madame Dumas deviennent récurrents et dangereux. Ils nécessitent, à cause des dangers encourus et de la souffrance physique qu'ils génèrent, une permanence médicale. S'il les a convoqués aujourd'hui, c'est pour leur conseiller d'hospitaliser leur mère, à qui le service à domicile ne peut plus garantir une entière sécurité. Un silence insidieux dépressurise la pièce. Un insoutenable silence implosif, désamorcé par le raclement de gorge de Jacques. Jacques qui se tourne vers Nicole. Nicole qui s'inquiète de l'urgence de la situation. Le médecin la rassure. Elle sort de son sac un petit carnet d'une main hésitante, presque retenue, y griffonne quelques notes. Elle pose mille et une questions. Il lui répond. Elle écoute. Note encore. Puis, en se redressant, elle exprime son désarroi, avant de livrer dans un profond soupir son soulagement. Savoir que sa mère va être prise en charge la soulage. Depuis quelque temps, la demeure familiale est un terrain miné, où les ustensiles ménagers constituent une menace pour leur mère. Hier encore, avec des tabourets de cuisine, elle a allumé un feu de bois au milieu du salon. Pendant que Nicole s'épanche et que Jacques s'engonce dans son siège, Stéphanie, elle, s'imagine enlever sa mère, la sauver, l'emmener loin, très loin, à l'abri du monde. Mais où? Et comment supporterait-elle sa présence en continu? Un seul après-midi en sa compagnie l'épuise. La fluctuation de son état la désarçonne, la désarme, la déprime. Son projet est absurde, elle le sait. Le tait et se sent idiote, impuissante. Coupable, abandonnée et en colère, de plus en plus en colère, contre la vie, et bien que ça soit injuste, contre sa mère. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, maman? Pourquoi? Cette phrase lui tourne en boucle dans la tête. Soudain, sans comprendre ni comment ni pourquoi, Stéphanie se surprend à signer des papiers avec ses frères et sœurs pour institutionnaliser leur mère. Un stylo à la main, elle explose en sanglots.
Maman est à l'hôpital. Elle est très malade, m'explique papa. Les yeux rivés sur la cheminée qui l'hypnotise et m'exclut du champ des vivants. Entre nous s'installe alors le froid brûlant et sourd du vide. Je n'entends plus ni le vent qui siffle, ni les crépitements du feu, ni rien. Et l'odeur de pain qui parfumait tout à l'heure le salon m'irrite la gorge. Je serre la mâchoire, ravale ma salive, et tousse ma peine, une peine salée. Elle me pique le nez, mais de rage. Je retiens mes larmes.
C'est le grand jour. Stéphanie se rend chez sa mère et sonne au portail. Josiane lui ouvre, perchée sur le haut des marches en pierre, dont le gris rappelle le frais de l'air. Elle la regarde. Dans sa robe rouge d'un autre temps, d'un autre âge, d'une autre saison, elle agite sa main. Puis elle lâche la rambarde, écarte ses bras au ciel et vient à la rencontre de sa fille qu'elle interpelle par son prénom. Il y a si longtemps qu'elle ne l'a pas appelée par son prénom. Comment se fait-il qu'elle s'en souvienne aujourd'hui? Il lui semble que cette scène se déroule au ralenti. Pourtant, Josiane presse le pas et sourit, s'approche
et défie la gravité et court, rit, la serre contre son cœur, si fort, si juste, si tendrement.
« Tu restes un moment ?» lui demande Josiane.
« Bien sûr, maman. »
À travers les nuages, un puits de lumière éclaire le gris de la pierre qu'elles gravissent toutes les deux. À la cuisine, elles sortent casseroles et briques de lait pour se préparer, comme à l'époque, un chocolat chaud. Très chaud.
La canicule a fichu le camp avec le départ de maman. Mon sang se glace, j'ai froid au nez, aux doigts, aux pieds, au cœur. Je frissonne de partout. Devant la cheminée, je l'attends.
Tu veux un autre chocolat chaud ? Propose Josiane.
Non, merci maman, répond Stéphanie.
Encore des pains d'anis ?
Ils sont délicieux, mais j'en ai déjà mangé 5.
Henri, lui, préfère les bracelets. Peut-être en ai-je encore, se demande-t-elle, l'air malicieux et l'index pointé.
Henri ? Qui est Henri ?
Occupée à se laver, Josiane ne répond pas. Ballant, elle se dirige vers le placard. Pour l'ouvrir, elle doit désormais se hisser sur la pointe des pieds. Avec humour, elle s'étonne d'avoir perdu quelques centimètres au fil des ans. La vieillesse nous rabote de partout et rigole avant de saisir une boîte de bracelets fraîchement roulée qu'elle dépose sur la table.
« Maman ?»«
Oui ?»«
Tu te souviens pourquoi je viens te chercher ?»«
Oui ?»«
Tu te souviens où je t'amène ?»«
Je t'ai dit oui. »«
Tu sais, c'est pour que l'on prenne soin de toi. »«
Je sais, ma chérie, » ponctue Josiane avant de desservir le couvert.
La mère lave tasse sous tasse et petites cuillères, les dépose à l'envers sur la plonge. La fille les essuie avec une lenteur coupable qui voudrait retenir le temps et profiter de l'ici et maintenant où, contrairement aux dernières semaines, Josiane va bien. Où Josiane a tous ses esprits. Où Josiane comprend. Où Josiane se souvient, sourit, s'anime, s'exprime. Où Josiane n'est pas malade.
Plus.
Où Josiane est à la maison. Devant l'évier, Stéphanie pleure. Elle ne veut pas pleurer, mais ses larmes tombent, ne cessent de tomber sur le linge de cuisine roulé en boule entre ses mains crispées.
Les doigts croisés, je prie matin et soir en secret de papa qui ne croit en plus rien. Je prie avec le petit chapelet que maman m'a offert à mon dernier anniversaire. Dans mon lit, les mains cachées sous le duvet, sous la table, lors des repas, sous mon pupitre à l'école et à l'église où je me réfugie le plus souvent possible, surtout aux heures où je n'y trouve personne. Pour pouvoir parler à haute voix au petit Jésus et être sûre qu'il m'entende. Parce que le dimanche à la messe, avec tous les villageois qui prient en même temps, ça doit être le brouhaha dans sa boîte crânienne. Comment aider les fidèles s'ils ne distinguent pas ce qu'ils disent ? Et quand je parle à haute voix, ça me fait du bien. L'écho de mes prières qui résonnent dans l'autel me donne l'impression de ne pas être seule, qu'une autre moi me soutient et veut, comme moi et avec moi, que maman guérisse, que maman revienne, au plus tard le jour de mes 7 ans.
Sur le couvre-lit, la fille rassemble un lot de vêtements étiquetés au nom de sa mère, son nécessaire de toilette, un livre de chant et un vieux chapelet de perles. Assise sur le rebord du lit, la mère, les bras en croix sur la poitrine, s'agrippe à une photo encadrée de son défunt mari. La fille, qui délaisse provisoirement les préparatifs, s'installe à ses côtés. Leur peau s'effleure, leur chaleur s'épouse. En douceur, la fille retire le cadre de ses mains. En rangeant une mèche de ses cheveux blancs derrière l'oreille, elle demande « Ça va, maman ?» La mère acquiesce,
d'un hochement de tête et se lève. Le plancher craquelle. Elle quitte la chambre. Un grincement strident transperce l'appartement. Sur le carrelage du corridor, Josiane tire un tabouret et s'assoit devant le meuble du téléphone. D'une main, elle saisit l'appareil, de l'autre, compose le numéro et passe un dernier appel à M. Firmin pour l'informer qu'il n'y a plus besoin de venir remonter la pendule le samedi matin puisque, dès aujourd'hui, le temps s'arrête. Elle part au home. De la chambre à coucher, encore assise sur le rebord du lit de sa mère, les yeux rivés sur le portrait de son père, la fille l'entend, l'écoute et se déteste. La mère raccroche le téléphone. La fille zippe la fermeture éclair du sac de voyage.
Je l'attends. D'août à septembre, de septembre à octobre, d'octobre à novembre. Et faisant l'impasse sur mon anniversaire que papa oublie, je prie encore et encore.
La fille soulève la longue selle en cuir, un extrait, un casque, le tend à la mère. La mère l'enfile de travers. La fille le lui enfonce sur le crâne d'un coup de paume franc, le réajuste. De ses doigts fins, elle accroche la sangle sous son menton pour pallier sa maladresse, puis descend machinalement la visière. À tour de rôle, elle chevauche le scooter. La mère, installée à l'arrière, se cramponne à la fille. La fille enclenche le moteur, démarre. Poussée par le soleil qui placarde leur nuque et allonge leur ombre sur le bitume, elles traversent l'allée bordée de platanes. Elles échappent à l'instant. Le vol. La robe rouge claque dans l'air. La fille a la gorge nouée. L'idée d'un accident lui traverse l'esprit. Si le sort les tuait là, toutes les deux, sur le coup, il leur épargnerait les morsures enragées de la maladie qui fait de ses victimes des pantins. Une main lâche le guidon, une main qui, au ralenti, enveloppe, réchauffe et rassure. Celle de sa mère, collée contre son ventre. Les yeux pleins d'eau et des secousses sismiques dans la poitrine, la fille, pour ne pas pleurer, commence à chanter.
Una mattina mi son alzato,
d'abord timidement.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Retenue par l'émotion qui faussoie son élan et étouffe sa voix. L'émotion, tout à coup, sublimée par le fredonnement de sa mère qui chante avec elle.
Una mattina mi son alzato,
de plus en plus fort.
E ho trovato l'invasor,
à poumons déployés.
Oh partigiano, portami via,
comme à l'époque où son père, sa mère, Nicole, Jacques et elle passaient leurs vacances d'été en Italie. Le cœur couvre le bruit du moteur, dans le vent qui les amène au mouroir. Elles hurlent. La vie.
Oh bella ciao, bella ciao, 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 che mi sento di morir.
Maman ne rentre pas. Enfin si, juste pour 3 jours. 3 jours dans un cercueil posé au milieu du salon. Devant ce corps sans vie, sans voix. Devant ce corps froid qu'une mouche à l'oreille des narines suçote, je serre dans mon poing
la croix du petit chapelet que j'aimerais pulvériser dans la pièce en hurlant. Maman ne m'a même pas dit au revoir. Je lui en veux à mourir. J'en veux aussi à papa de m'avoir interdit de lui rendre visite. Je m'en veux de lui avoir obéi. D'avoir patienté bêtement en priant le petit Jésus sourd comme un pot, indifférent à mon martyre. Si ça se trouve, il n'en a rien à fiche. J'aurais pu prendre le train, aller à l'hôpital, j'aurais dû. Pour l'entendre fredonner, pour l'embrasser, pour lui dire que je l'aime, pour la sauver. L'amour est plus fort que tout, non?
L'appartement est démeublé, nettoyé, ripolliné. Il résonne le vide et l'eau de Javel vicie l'air de son odeur de chlore, recouvrant le parfum de cuisine au beurre qui, jadis, ouvrait l'appétit de Jacques. Que ne donnerait-il pas pour manger des cornettes grillées et des pommes fondues ? À travers les vitres nues, le dedans déborde sur le dehors sur le dedans. Tout ce qui a existé ici s'évapore. Même les cigarillos du père, soigneusement gardés dans la table de nuit après son décès, ont disparu. Il ne reste désormais de lui que deux ou trois photos dans un vieux carton à chaussures et quelques souvenirs dans un coin de la tête. Mais si peu. De bons souvenirs néanmoins, contrairement à ceux qu'il gardera de sa mère. Sa mère qui, depuis des mois, l'accuse, l'insulte, le renie ou ne le reconnaît pas. La seule constante qui les relie, c'est qu'elle est persuadée que Jacques vandalise son jardin.
Je suis sûre que c'est lui, je le vois la nuit, traverser l'allée comme un voleur et désherber mes fleurs. Ma glycine, ma pauvre glycine, pourtant si belle ce printemps, est morte et asséchée.
Jacques sort à reculons, lentement, à pas feutrés, comme un félin terrifié. Soudain, face à la béance de l'appartement de son enfance, il réalise qu'il ne posera plus jamais les pieds ici. Que tout s'en va. Que rien ne dure, à l'exception de l'écho d'hier qui s'aplatit sans bruit contre les parois boisées. Arrivé à la porte, il la tire vers lui, la ferme, la verrouille, et appuie son front avec l'espoir que les rainures du bois estampillent sa peau. Il dépose le vieux carton à chaussures à ses pieds. Des photos tombent sur le sol. Sans y prêter attention, il les ramasse et les remet dans le carton. Puis il retire la clé, la plonge dans la poche de sa veste de laquelle il extirpe un petit tournevis. Il dévisse le support de la sonnette. Le démonte, en extrait l'étiquette jaunie par les décennies. Entre ses doigts, le papier s'effrite. Emporté par une soudaine brise, le nom de sa mère s'envole en fragments et se disperse dans les glycines dont le parfum sucré l'écœure.
Papa sent le tabac, ses joues piquent. Quand il m'embrasse le matin au réveil, j'en fouille ma tête entre les épaules. Par réflexe, parce que ses poils drus me donnent les frissons. J'aimerais qu'il m'enlace, comme maman le faisait, mais je n'ose pas le lui demander, je n'ose pas lui parler d'elle non plus. À chaque tentative, il s'éloigne et parfumé sur le perron. Pour se tuer à petit feu, je ne veux pas le perdre lui aussi. J'aimerais crier « Papa, je suis là !» Mais je reste sans voix, flottant sur ma tristesse profonde et plane comme l'étal d'un océan à marée haute.
Madame Dumas est en chambre. Nicole toque à sa porte, pas de réponse. Madame Dumas est endormie. Nicole la regarde. Elle se souvient des dimanches matins de son enfance où, exceptionnellement, elle pouvait rejoindre le lit de ses parents, se faufiler entre eux et profiter de leur chaleur qui réchauffait ses cuisses glacées. Sous les draps, elle se blottissait contre sa mère qui l'enlaçait avec une tendresse sans cesse renouvelée, jamais lasse, entière. À tous les réveils, elle y pense. Au petit déjeuner aussi, lorsque de ses deux mains, comme elle, elle empaume la tasse de café au lait fumant, le regard épinglé à ses songes. Et encore à plein d'autres moments de la journée. Plus qu'auparavant, plus que jamais, elle la sent en elle, dans ses gestes, dans ses intentions, dans l'amour qu'elle porte à ses enfants, l'entend dans sa voix, et, comme si l'âge les rapprochait, se reconnaît dans ses rides naissantes qui accentuent leur ressemblance. Sa mère ne la quitte pas, la maladie ne la tuera pas, parce qu'une maman, ça ne meurt pas. Une maman, ça ne meurt jamais. Elle la regarde encore et lui souffle un « Bonjour, maman. »
Papa a engagé une nouvelle serveuse. Elle commence son service ce matin. Quand je débarque à la cuisine pour le petit déjeuner, elle s'accoude à la table en face de moi. « Salut, moi c'est Anita, et toi ?» Elle me sert un chocolat chaud, et très chocolaté, exactement comme je les aime, exactement comme maman me les préparait. « Joe !» lui répondais-je avec élan. « Joe !» le surnom que maman m'avait donné, parti aux oubliettes depuis son décès.
Aux Églantines, Madame Dumas participe à l'atelier de cuisine. Comme chaque vendredi, on y propose pour le repas de midi une soupe aux légumes et des gâteaux aux fruits. Installée à son poste de travail, Madame Dumas obéit aux instructions. Avec d'autres dames, elle coupe en gros dés carottes, pommes de terre et courges épluchées à l'avance par les animatrices qui séquencent soigneusement chaque étape de l'activité. Ces dernières versent ensuite les passoires de légumes dans une casserole à jambon remplie d'eau froide. Si ça ne tenait qu'à elle, elle n'aurait pas procédé comme ça, pas du tout. Elle aurait fait revenir des oignons et de l'ail dans du beurre, y aurait ajouté les légumes avant de les mouiller avec du bouillon porté à ébullition. Mais voilà. Puis elle attend. Elle ne sait pas trop quoi. Mais les paumes plaquées à la planche à découper, elle attend. On met la soupe sur le feu, les gâteaux au four. D'un geste concis et bienveillant, on l'invite à soulever les mains pour reprendre la planche à découper et nettoyer la nappe cirée. Puis on dresse le couvert, assiette à soupe, cuillère et verre d'eau, serviette en tissu. Madame Dumas récupère ses mains, les cache et les croise sur son tablier et attend encore en balbutiant un « Je vous salue, Marie ». Un parfum de fruits cuits embaume la pièce. Elle salive, son visage s'ouvre, son estomac lui répond. Elle se réjouit. On retire la soupe de la plaque. On apporte les goûtus et brûlants gâteaux sur la table. Celui aux pommes, celui aux pruneaux, juste devant Madame Dumas, celui aux myrtilles. À la vue de celle-ci, ses pensées se brouillent. Ça grouille et ça vrombit dans sa tête, ça l'envahit. L'idée d'en finir avec ces sales bestioles sans mémoire ni dignité qui reviennent sans cesse de là où on les a chassées l'assaille. Elle s'agite et, vlan d'une gifle virulente, les tue toutes d'un coup. Leur chair bleutée éclate au visage des autres dames et des animatrices qui, autant surprises par le geste et sa portée que par la température du projectile, crient « Mais vous êtes folle, Madame Dumas !»« Maman est folle, on n'y peut rien, mais ce qui nous console, c'est qu'elle nous aime bien !»
Avec Anita, on fait les folles, on joue, on rigole. Du café au corridor, elle essaye de m'attraper. Je cours, elle aussi, j'accélère, m'enfuis dans les escaliers qui craquent sous nos pieds. Nos éclats de rire ricochent contre les murs et sortent papa de sa torpeur muette qui, de la cuisine, nous ordonne de nous calmer. Nous lui obéissons. Camouflés dans ma chambre, nous étouffons nos rires complices sous le duvet. Puis nous parlons de tout, de joie, de peine, d'école et d'amour. D'aujourd'hui et d'hier et de maman. Glissez dans le phrase le mot « maman ». Si doux, si lent, si bien, si tabou. Ouvrir mes lèvres pour ouvrir mon cœur, le laisser jaillir de ma bouche, le prononcer à haute voix. Le livrer à quelqu'un qui l'entend, ravive mes souvenirs et continue à faire exister ma maman, à l'empêcher de disparaître. Puis on fait de nouveau les folles, on rigole, elle essaie de m'attraper, je cours, elle aussi. J'accélère, m'enfuis dans les escaliers qui craquent sous nos pieds. Nos éclats de rire ricochent de nouveau contre les murs. De la cuisine, papa enjoint Anita de se remettre à la tâche sur le champ.
Madame Dumas croit que le home est une salle d'attente. Sur un ton de politesse mondaine, elle houspille le personnel en insistant sur le retard que le docteur Berbier prend dans ses consultations. Elle bougonne, s'étonnant qu'Anita tarde à venir la rechercher. Puis elle oublie, s'oublie, redevient docile et part se promener dans le jardin avec une sympathique inconnue. Tout à coup, à l'idée qu'un paysan en furie ne la pourchasse, son cœur cogne, ses yeux s'arrondissent, elle crie, disparaît dans les fourrés qui lui éraflent les jambes. Nicole s'approche, se penche vers elle tout près, elle la fixe avec insistance en serrant son poignet contre sa poitrine. « Je suis là, maman, tu entends ? Je suis là, et tout va bien, » lui murmure-t-elle. À la vue des papillons qui surplombent les hautes herbes, Madame Dumas rigole. Se frayant un passage à travers la clairière, elle atteint la lisière de la forêt. Main dans la main,
elles continuent leur balade où leur rôle de mère et fille est à jamais inversé.
J'aime bien le docteur Verbier. C'est lui qui m'a expliqué la maladie de maman après son décès. Bien qu'il m'assure que je n'en sois pas responsable, je ne peux m'empêcher de croire que c'est à cause de moi que je suis punie par où j'ai péché. Un dimanche matin de l'hiver dernier, j'ai renoncé à aller à la messe, prétextant de la fièvre et faisant semblant de tousser alors que j'avais simplement envie de rester à la maison avec papa et maman. Papa et maman qui décoraient le sapin et montaient la crèche en se taquinant, en s'embrassant. Ils étaient amoureux. Je me plaisais à penser que peut-être au Noël suivant, je connaîtrais la joie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Au cours du catéchisme, monsieur le curé répète que se soustraire à son devoir dominical est un péché mortel. Non seulement j'avais commis l'irréparable, mais en plus je n'avais pas eu le courage d'aller à confesse. Pas tout de suite. Durant ce laps de temps, maman a contracté la tuberculose et le bacille de Koch a gagné du terrain. Je n'ose pas confier le poids de ma culpabilité au docteur Verbier. Il se moquerait de ma bondieuserie. Pourtant, la conviction d'avoir tué maman me torture, car il s'agit bien de ça. Alors je prie encore et encore pour recevoir le pardon, pour protéger papa du mal que je pourrais lui faire.
Certains dimanches, une poignée d'enfants rendent visite à madame Dumas. Même si elle ignore pourquoi ils l'appellent grand-maman, leur présence la ravit et leur fraîche accolade, vivement encouragée par Nicole, qui les pousse du coude, lui crée un immense bonheur. Elle touche, tapote leurs épaules à la police, plonge ses yeux dans les leurs, mais ne les entend pas et reste muette. Son esprit a des manières étranges de mélanger les temps, les lieux, les gens, les émotions, les mots et les silences entre les mots. Son esprit, de plus en plus, a l'art de l'absence. Les visites de ses petits-enfants s'espacent. Ils refusent d'assister à la décrépitude de leur grand-maman. Attachée à une chaise ou barricadée à un lit, ils ne la reconnaissent plus. La maladie ronge leurs souvenirs. De la grand-mère loquace et robuste, au teint hâlé à force de labourer son jardin potager et d'arroser ses fleurs, il ne reste que des débris. À présent, elle a la peau blanche, le visage creusé, les lèvres cousues, le dentier dans un verre d'eau sur la table de nuit et son corps malingre dégringole. La mort lui a déjà mordu les joues, lance avec cruauté l'aîné des enfants de Nicole, qui les dispense alors, ses sœurs et lui, de leurs obligations dominicales. Nicole, elle, continue à venir au home chaque jour avec la même volonté, être là pour sa mère, qui n'a d'histoire que celle d'avoir été là pour son frère, sa sœur et elle. Sur sa pause de midi, elle grimpe alors dans sa voiture, débraye, allume le moteur. En grignotant un sandwich au volant, elle se rend aux églantines. À la porte de la chambre 223, elle toque 3 fois. Puis elle pénètre dans la pièce,
craque une allumette qui, presque par magie, sort sa mère de la somnolence et allume une petite bougie pour chasser la mort. Elle se penche vers sa mère, lui sourit, lui dit « Salut maman, tu vas bien ?» Sans espérer de réponse, elle l'embrasse avec tendresse. Saisit la télécommande du lit électrique, en redresse le dossier, approche la tablette à roulettes de sa mère. À la petite cuillère, elle lui donne à manger, sans faillir, ni sous la fatigue, ni sous le découragement, ni sous le chagrin, ni à la vue de ses repas fades et mixés, à l'image du cerveau de sa mère, où plus rien n'a de consistance. Elle retire la tablette. D'un coup de serviette humide, lui nettoie le visage. Si dans le contre-jour un poil dru brille sur son menton, elle l'arrache à la pince à épiler, qu'elle repose sur la table de nuit, à proximité de la photo du père, qui, alors qu'elle l'a tant aimé, n'existe plus pour sa mère. Puis elle coiffe ses cheveux blancs, lui sourit encore en repensant à sa coquetterie d'antan, redescend le dossier et lui rend, jour après jour, ce baiser sur le front qui, enfant, la protégeait des cauchemars. D'un souffle lent, les yeux clos, elle éteint la flamme et hume le parfum de fumée qui embaume la chambre avant de retourner au bureau.
Plus jamais je ne manque la messe un dimanche matin, et encore moins depuis que j'ai rencontré Louis. J'aime tellement être avec lui. J'aime son audace, son souffle, ses caresses, ses bras qui me rassurent. J'aime la douceur de sa peau blanche et ses cheveux roux en bataille qui me chatouillent les lèvres lorsqu'il me plaque sur un lit de feuilles de mousse, sur un lit de rire. Ses paumes qui agrafent les miennes, ses baisers sonores, sauvages, ses baisers qui me dévorent. J'aime qu'il prenne corps en moi. J'aime chanter avec lui. Parfois, après la cérémonie, nous montons à la tribune. À voix défendue, nous y improvisons des concerts a cappella que le bruit des cloches tente de dissimuler.
Le téléphone sonne. Madame Dumas ne décroche pas. Ne l'entend-elle pas? Ne sait-elle plus l'utiliser? Peut-être. Toujours est-il que depuis quelques semaines, elle ne touche plus à l'appareil.
J'ai faim de vie, d'amour, de lui. J'ai faim d'émotion, de joie, de fuite, de frisson, de chanson, de tout. Je m'arrondis comme un soleil d'été. J'ai chaud. Comment ferai-je quand à l'automne, Louis partira étudier à la ville? On s'écrira?
Sur la table de nuit s'entassent des cartes postales envoyées par Stéphanie. Madame Dumas ne les lit pas. Elle ne sait plus lire. Elle n'a même plus le réflexe d'admirer les paysages au recto. Il ne lui rappelle rien, ne l'intéresse pas. L'océan et les volcans n'ont aucune espèce de signification pour elle. Nicole non plus ne les lit pas. Elle pourrait en délivrer le contenu à sa mère, essayer de la distraire, épiloguer sur le voyage de Stéphanie, sur les pays et les gens qu'elle rencontre. Mais non, pourquoi serait-ce toujours à elle de s'occuper de tout? Pourquoi devrait-elle jusqu'à la fin combler les trous béants creusés par l'absence de ses frères et sœurs? Pourquoi ne l'appelle-t-il pas? Nicole maudit leur mutisme et range les cartes postales dans l'armoire murale.
Il n'y a rien dans la boîte à lettres. J'en ai le ventre noué, envie de vomir, de pleurer, de dormir. Je vais m'effondrer. Maman, reviens, je t'en supplie, reviens.
Dans les moments creux, il y en a de plus en plus, on dépose une poupée dans les bras de Madame Dumas. Une poupée aux yeux bleus, avec de longs cils noirs. Ses paupières se ferment lorsqu'on l'allonge sur le dos. Madame Dumas a accroché autour de son cou son petit chapelet de perles. À mesure de la bercer et de couvrir de baisers son crâne en plastique, elle se tranquillise. On dirait que sa seule présence l'aide à recouvrer une sorte de paix. Si l'on s'approche d'elle, on peut entendre la mélodie d'une vieille chanson, toujours la même. Copain Henri, d'Henri Salvador.
Chaque nuit, je rêve de Louis. L'été se prolonge. Dans mes songes, sa voix se dissout en moi, se propage. Il me rassure, me soutient, m'embrasse. Sous ses baisers au goût de résine, ma peau s'irrite, s'enflamme et rougit. Et sous ses baisers encore, je ris avec l'exubérance de celle qui se croit aimée. Invincible, nous chantons sur la tribune, dansons, tournoyons, haletons, crions à corps tendu, à corps perdu. Puis, en sursaut, je me réveille, essoufflée, ébahie, confuse, la bouche sèche. Le silence de la nuit m'oppresse, je hoquette, j'étouffe. Son silence me déchire, cette nuit plus que toutes les autres. Mon cœur meurtri pulse à l'extérieur, dans une main qui n'est pas mienne, et mon corps se contracte. Par intermittence, la douleur me foudroie, me fige, m'écartèle.
Le téléphone sonne encore. Madame Dumas bouche les oreilles du bébé, continue à le bercer, joue contre joue. Elle s'endort avec lui.
Soudain, dans mon lit, sans cri, sans bruit, mon corps crache une poupée sans vie, un bébé mort. Je la glisse sous le lit, dans ma caisse à jouer avec mes autres poupées que je n'ai pas encore réussi à jeter. Papa vient m'ouvrir, je fais semblant de dormir. Puis, vite, 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 je roule la caisse à jouer jusqu'au grenier, sans plus jamais y penser.
Madame Dumas ne se réveille pas.
Boucle folle, teint pâle et tache de rousseur, Henri mange ses tartines à la hâte, boit son chocolat chaud, quitte la table, embrasse sa mère, blouson ouvert. Il court à travers le jardin pour arriver à l'heure à l'école. Le portail grince. Joe écarte le rideau de la fenêtre de la cuisine, radieuse, remercie le ciel qui s'offre à l'infini et inonde le jardin de lumière. Le petit chapelet en perles que sa mère lui a jadis offert tombe à terre dans un silence parfait qui avale à jamais l'incessant vrombissement des mouches.